cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Genard le 13 décembre 1988.
Je vous ai laissé la dernière fois sur l'induction de l'âme. Alors n'oubliez jamais que pour nous, aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. D'une part, parce que nous ne sommes plus soutenus par les traditions religieuses. Le mot « âme » n'est pas premièrement philosophique. Il est premièrement des traditions religieuses, comme le mot « Dieu ». Il faut être très sensible à ça aujourd'hui. Il ne faut pas affirmer trop vite, on découvre l'âme. Attention. Les traditions religieuses nous parlent de la distinction de l'âme et du corps. Et on se pose la question, est-ce que ces traditions sont des mythes ou impliquent un logos, impliquent un principe, impliquent une intelligibilité? C'est très important ça. Or, de fait, aujourd'hui, les traditions religieuses n'existent plus. C'est très sensible à ça. On vit dans une culture scientifique technique qui supprime les traditions religieuses. Le gosse est éduqué par la télévision. Encore quelques familles préservées. Quelques familles préservées. Encore quelques communautés préservées. Mais au fond, c'est très rare. La télévision pénètre partout. Elle a tout conquis. Il y a encore des terrains qui restent comme ça. 10 îlots. Il faut lutter tout le temps, parce qu'il faut montrer que ce n'est pas une réaction, que c'est tout simplement de la santé. On est des grands vivants, on n'a pas besoin de télévision. Les petits vivants en ont besoin, parce qu'autrement ils sont seuls. Tandis que si on a un contact direct avec le ciel, on n'a plus besoin. On a la contemplation. Bon, c'est donc pour nous un problème qui vient des traditions religieuses, de la théologie, et nous pouvons nous dire que des grands théologiens comme saint Thomas et que les grands théologiens de l'Église catholique, jusque il y a 50 ans, je crois, vous mettez à peu près 50 ans, peut-être plus, je crois que les théologiens du début du siècle ont tous affirmé la distinction de l'âme et du corps. Je crois. Ce serait intéressant de voir à quel moment ça a viré. Au point de vue philosophique, on voit très bien, c'est Merleau-Ponty. Et l'influence de Merleau-Ponty sur les théologiens a fait que la distinction de l'âme et du corps n'a plus commerce, n'a plus sur le marché public. C'est ce qu'on m'a dit. Des gens très bien m'ont dit ça. Donc c'est plus la peine d'en parler. Alors, nous continuons d'en parler, non pas par réaction, c'est parce que nous savons, ou nous le saurons, que nous ne pouvons vraiment parler de la personne humaine d'une façon philosophique que si on a compris la distinction de l'âme et du corps. Parce que ce qui est créé, ce n'est pas la personne humaine, c'est l'âme. Et c'est pour ça que c'est si important de maintenir ça. Si vous supprimez l'âme, vous n'en parlez plus, vous ne parlez plus de la personne, vous ne pouvez plus justifier l'adoration. Et c'est pour ça que de fait, on ne parle plus de l'adoration. Vous voyez, c'est déjà vieux ça, vous savez. Je me souviens quand je suis arrivé à Fribourg, donc sitôt la guerre, j'étais voir un ami qui venait d'Angleterre, qui était pasteur anglican. Il m'a dit, est-ce que dans le catholicisme, c'est comme chez nous? Je dis, quoi? Au fond, les chrétiens ne savent plus ce que c'est que l'adoration. Alors, j'ai dit, je crois que c'est vrai. Les chrétiens ne savent plus ce que c'est que l'adoration. Ils n'adorent plus. Parce qu'ils n'ont plus du tout le sens de la dépendance radicale de l'âme par rapport à Dieu. Donc vous voyez, Déjà à ce moment-là, au fond, on sentait ce rejet au plan philosophique de l'âme. On considérait que c'était une distinction typiquement aristotélicienne, typiquement grecque, typiquement thomiste. C'est tout dire. Alors, nous devons nous respecter qu'une tradition religieuse, qu'une tradition théologique qui remplace les traditions et qui existe, parle de l'âme et du corps. Bergson parle encore de l'âme. Et donc nous devons nous demander si pour nous c'est légitime. Devons-nous accepter que parce qu'on n'en parle plus sur le marché philosophique, on ne doit plus en parler? Ou devons-nous considérer que pour la connaissance de ce vivant qui est l'homme, puisque c'est ce vivant-là que j'étudie, ce n'est pas d'autres vivants, puisque pour les autres vivants, je n'ai pas de connaissance interne. Ce que la vache voit quand elle voit le TGV passer, je n'en sais rien. Et vous non plus. Elle entend du bruit, elle voit des couleurs, sans voir de couleurs, comme dirait Topfer, n'est-ce pas? Donc, alors, on s'est fait très bien. Qu'est-ce qu'elle voit? J'en sais rien. Il faut non plus, vous n'en savez rien. Donc je fais pas la philosophie. Je ne connais pas la vie de la vache. Je connais ma vie par l'intériorité, ce qu'on avait vu la dernière fois. Je dois donc essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme comme vivant. Je m'aperçois de cette multiplicité d'opérations, l'unité fondamentale. Ceci exige de poser. Il y a une source de cette diversité d'opérations qui ne peut pas être là, qui ne peut pas être le corps visible, qui ne peut pas être les fonctions organiques visibles. Tout ça, c'est la complexité. Il y a donc quelque chose de radical, cette source de l'unité dans cette diversité. Vous voyez, l'induction pour l'âme est relativement facile. Et je me prépare à cette induction par le fait que j'ai une connaissance affective de l'âme. Et c'est très difficile aujourd'hui. Hein. Saint Thomas peut en parler en théologien. Je peux vous en parler parce que vous avez une certaine vie intérieure. Mais quand vous êtes en face de gens qui vivent dans l'extériorité, ils ne savent plus du tout ce que c'est que la vie intérieure. Leur vie intérieure, c'est de regarder la télévision. Ce n'est pas tout à fait une vie intérieure. Alors ils ne savent plus. Donc l'intériorité n'a plus le même poids qu'avant. Ça c'est sûr. Ils n'ont plus l'amour d'eux-mêmes. Vous savez bien. Beaucoup aujourd'hui ne s'aiment plus. Ce qui explique les suicides. Il n'y a plus cet amour de soi. Quand il y avait l'amour de soi, il y a quand même l'amour d'une âme. Mais quand il n'y a plus l'amour de soi, de sorte que cette première connaissance de l'âme affective, présente au plus intime de moi-même, c'est très très difficile. Je dois donc prendre l'argument de l'induction. Et l'induction, si je veux comprendre, si je me pose la question, qu'est-ce que c'est que le vivant? Quelle est la détermination fondamentale du vivant? Quelle est sa source qui fait que c'est ce vivant? L'induction me montre que je dois poser un principe radical d'unité de toutes mes opérations vitales. Un principe qui est lié au corps et qui aussi n'est pas lié au corps. Alors là, c'est le second moment de mon induction. L'induction pose d'abord l'existence d'un principe et d'une source. Puis je réfléchis sur cette induction. Vous voyez, et là c'est très important, parce que toujours le point de vue de la réflexion, de l'intériorité en philosophie du vivant, joue un rôle capital, puisque je n'ai aucune expérience affective de la substance. Tandis que j'ai une expérience affective de l'âme, je peux la voir, très bien l'avoir, beaucoup moins, mais je peux l'avoir. Alors je réfléchis sur le caractère de cette induction. Je vois que cette induction unit des opérations purement spirituelles et des opérations dans le corps. Je me dis donc que ce principe radical qui unifie toute ma vie a donc quelque chose qui est lié au corps et quelque chose qui est au-delà du corps. C'est quand même très étonnant. La vie n'est pas seulement biologique. Il y a une vie spirituelle. Et ce principe est source des deux. Mais il demeure un principe immanent au corps, présent dans le corps. Et il dépasse au corps. Ça, je peux tout de suite le dire à partir de cette induction. Donc c'est une réflexion à l'intérieur de l'induction pour préciser ce qu'est l'âme, ce qu'est ce principe, le caractère propre de ce principe, l'âme. Principe radical de vie. Il est donc lié au corps, il est donc au-delà du corps. Comment est-il lié au corps? C'est quand même très important, ça. Là, on touche à un problème extrêmement important. Il serait intéressant, une petite topique historique, de montrer que c'est là où on voit la différence entre les aristotéliciens et les néoplatoniciens. Pour Aristote, on vérifiera après, je fais une petite topique. Pour Aristote, l'âme est principe substantiel du corps. C'est-à-dire que l'âme informe le corps. L'âme donne au corps sa signification propre. Pour les néoplatoniciens et Platon, l'âme est unie au corps accidentellement, à cause du péché. Si l'âme était restée contemplative, elle n'aurait jamais ce poids terrible à porter qu'est le corps. Elle aurait sa récompense de suivre les dieux partout où ils vont. Elle serait contemplative dans le Phédon et le Phèdre, c'est dit admirablement. Et pratiquement, ces deux positions résument toutes les positions. Il y aura des positions intermédiaires, mais au fond, ça résume bien. C'est en revenant à l'expérience que je dis que la position aristotélicienne seule correspond à toutes les expériences que j'ai. Parce que quand je dors, quand je mange, c'est bien moi. Substantiellement. Quand je suis tout proche de la mort, je ne dis pas quand je meurs, parce que j'en ai pas l'expérience, pas encore, mais quand je suis tout proche, ou que je suis tout proche d'un ami qui meurt, il y a une rupture substantielle. C'est très émouvant par rapport aux vieillards, ça. Les jeunes meurent très vite, et les vieillards meurent lentement. Quelquefois 8 jours d'agonie. Quand ils ont 70 ans, 80. Vous savez, c'est comme un arbre dont les racines sont profondes et qui, par le fait même, très difficile à déraciner. Il y a cela. Tandis qu'un jeune arbre, un ouragan passe, ça y est. Ça meurt très vite pendant la guerre, on sait tout le monde, hein, tout le monde sait ça. Les jeunes meurent très vite, les jeunes officiers meurent très vite. Parce que ils foncent. Ils le font, avec du panache. Tandis que ceux qui sont plus vieux sont plus prudents. Ils sont pas moins courageux, ils sont plus prudents. Et puis de fait, c'est quand même curieux. On est moins attaché à la vie à 18 ans. À 75 ans. On meurt plus facilement à 18 ans qu'à 75 ans. C'est très étonnant, ça. À cause, je crois, de cet enracinement de l'âme dans le corps. Et ça, c'est une expérience Et que si je dis que l'âme informe le corps, je comprends ça. Tandis que si je dis que l'âme est simplement liée accidentellement au corps, je ne comprends pas. Parce que c'est accidentel, donc ça n'explique pas ces longues agonies. On a l'impression que ce qui fait que les médecins à ce moment-là disent « Oh, avançons un peu !» Et par derrière, quand les parents sont un peu absents, petite piqûre, on ne dit rien. Accélérer la mort. Ça se fait couramment aujourd'hui. Parce qu'on ne veut plus assister à ces longues agonies. Ces longues agonies vous obligent de réfléchir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces longues agonies. C'est très difficile. Mais je crois qu'on a beaucoup plus conscience qu'on ne pense. Une conscience de l'instant présent. Pas nécessairement la mémoire. Très curieux. Paraît-il que la nouvelle maladie, on m'a dit ça l'autre jour très sérieusement des médecins, qui sont même inquiets, la nouvelle maladie qui est en train de s'installer, c'était quelqu'un que je connais qui l'a, et c'est assez terrible, plus aucun sens du passé, plus aucun sens du passé et du futur, donc du temps, et plus aucun sens du lieu. On n'a que le sens actuel, présent. Il paraît que c'est une partie du cerveau qui se désagrège. Et ce médecin disait, ça augmente le nombre. Et il prétendait que dans 40 ans, la moitié de l'humanité serait comme ça. On ne sait pas encore la cause. On la cherche. Mais c'est assez terrible du reste. Hein. Alors, on peut avoir une conversation, mais au milieu de la conversation, tout d'un coup, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est ici? Et, voilà, mais il y a combien de temps que je vous ai vu? Mais c'est plus fort que la personne, c'est, on a besoin du conditionnement du temps et du lieu. Parce que c'est le conditionnement du temps et du lieu. C'est curieux que l'âme, c'est peut-être l'âme qui se déracine, vous voyez. Parce qu'au fond, c'est ça. Vu du côté philosophique. Parce que c'est l'âme qui n'a plus cette maîtrise absolue. Parce que c'est une conséquence de l'idéalisme. C'est possible. Moi, je suis persuadé que l'idéalisme a une répercussion sur le lien de l'âme et du corps. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on a plus ce réalisme de vivre dans le temps présent, savoir ce que c'est que le passé, on est responsable du passé, le futur, on le prépare, on est dans tel lieu, et on doit avoir son lieu là. Vous voyez, la rapidité des changements, l'accumulation des choses fait que ça brouille. Et l'idéalisme aidant, l'âme n'a plus cette espèce d'impact. Alors, je crois que notre expérience que nous avons, puisque quand nous voyons ces personnes, nous disons qu'elles sont malades. Et on reconnaît qu'elles sont malades. On n'a pas encore dit, oui, c'est normal, que voulez-vous? À partir de 50 ans, le cerveau se ramollit un peu. Donc on n'a plus ce sens-là. Donc, on trouve que c'est malade, maladie. Donc, on voit bien que l'âme et le corps forment une unité. Je suis. Quand vous dites « je suis », votre corps, avec toutes les sensations, votre conscience, votre pensée, tout ça ne fait qu'un. C'est vous, c'est votre personne. Je suis. Alors, seul le lien substantiel de l'âme par rapport au corps peut expliquer cela. Je crois qu'il y aurait des quantités de choses actuellement qui montreraient ça, même au point de vue médical. intéressant du reste d'étudier ça, au point de vue médical. Ceux qui connaissent un peu la science biologique devraient essayer de voir tous les points forts de ça. Parce que c'est intéressant. Frère Pascal fait une thèse là-dessus. Parce que comme il est médecin et qu'il entre à fond dans la philosophie, je crois que c'est intéressant de voir ces liens. Voir comment on peut aujourd'hui, avec certains faits, montrer que l'âme est nécessairement forme substantielle du corps, que le lien est substantiel au niveau de l'être. Et que si ça se sépare, c'est une séparation substantielle, radicale. Donc l'âme, forme du corps, substance et forme du corps, principe radical de toute ma vie biologique. Et alors un peu plus loin, c'est l'âme qui me donne l'intelligibilité essentielle, je dis bien essentielle, substantielle du corps. Je me souviens, quand je disais ça à Fribourg, une fois dans un séminaire, il y avait un étudiant de Genève qui était docteur en biologie de Genève. Il m'avait demandé d'assister au séminaire en Grande-Espagne. Guzman. Ça m'a intéressé quand tu m'as dit que c'était Guzman, puisque c'est un dominicain Guzman. Alors, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Un type remarquable, ça. Très amusant, bon espagnol. Quand j'ai dit ça, je l'ai vu qu'il changeait de couleur. Et à la fin du séminaire, il m'a dit, mais c'était folant ce que vous avez dit. Alors, la science biologique, on ne parle jamais de l'âme. Qu'on ne connaît pas le corps humain. Est-ce que vous maintenez ça? Que le corps humain n'est connaissable que par l'âme? Je dis oui, on peut connaître des fonctions, mais on ne connaît pas le corps humain. On ne connaît pas son unité. On ne peut pas. L'harmonie profonde, ça vient de l'âme, c'est pas le corps. Donc l'intelligibilité fondamentale, ça vient de là. Vous voyez, aujourd'hui, hein, quand vous dites ça, et vous voyez le positivisme enraciné chez des quantités de biologistes. Pour eux, la connaissance du corps, c'est la connaissance du corps humain. Ça explique du reste des quantités de choses au point de vue expérimentation. On expérimente sur l'animal, puis après l'homme. On oublie que spécifiquement le corps de l'homme est distinct du corps de l'animal. Mais spécifiquement, mais radicalement. Il y a des choses semblables, mais spécifiquement c'est distinct. L'âme donne l'intelligibilité du corps humain. C'est par l'âme que je connais le corps humain, dans son unité, dans son harmonie. Elle est forme. Ça va très loin, ça, vous voyez. Je peux décrire le corps humain, ce que fait la biologie du reste, mais je ne le connais pas dans sa cause. Donc je ne le connais pas scientifiquement. Je ne peux que le décrire. Ce serait la même chose pour la psychologie, vous voyez. La psychologie décrit des états d'âme, des sentiments, le conditionnement. Il donne des lois. Ils sont fruits de descriptions, de constantes. Si A est posé, B sera posé. Vous voyez, on saisit des liens de nécessité. Mais on ne saisit pas la cause profonde. La cause profonde, elle doit saisir au niveau d'une philosophie du vivant. Et c'est pour ça que c'est si important, l'induction de l'âme. De mon âme. Puisque c'est moi. Par rapport à moi-même que je fais cette induction. Puisque je le fais en me mettant dans cette proximité particulière que j'ai conscience de mes opérations dans leur intériorité. Et avoir conscience de mes opérations dans leur intériorité, c'est justement saisir leur vie, ces opérations vitales, dans leur jaillissement, dans leur source. Et je saisis en même temps que mon âme, la même, substantiellement, est source d'opérations qui sont spirituelles, d'opérations de pensée, le cogito, je pense, je raisonne, et que ma pensée me permet de toucher intellectuellement un principe. Toucher quelque chose qui a un mode universel. Donc de toucher quelque chose qui n'est plus lié à la matière, qui est immatériel. Je peux découvrir ça dans mon expérience que j'ai et dans ma réflexion sur ma pensée. Ma pensée n'est pas matérielle. Ma pensée, je dirais, est d'ordre spirituel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas matérielle. Elle est au-delà de la matière. Elle a un mode universel dans son intentionnalité. Et mon amour peut être aussi spirituel. Il n'est pas lié toujours aux passions. Il y a quelque chose. Il est lié aux passions, si vous voulez, mais il les dépasse. Il y a quelque chose qui les dépasse. Il faut donc que l'âme soit principe unique à la fois de cette information du corps. L'âme porte le corps qu'elle anime et qu'elle soit en même temps source radicale de certaines opérations spirituelles. C'est donc très extraordinaire. Et pourtant, elle est indivisible. Mais comme ça me fait toucher quelque chose de très particulier, c'est pas contradictoire ça. Parce qu'elle est principe de vie. Donc elle peut être à la fois principe d'une réalité corporelle et principe d'une réalité qui est au-delà du corps. C'est l'âme, principe de vie et de vie humaine. Vous voyez, cette réflexion est très importante, parce que ça me permet tout de suite de comprendre que cette source est très étonnante, cette source de vie que je porte en moi. Je justifie mon intériorité, et cette intériorité intellectuelle et affective. Je peux, en troisième lieu, comprendre que cette âme indivisible, cependant, va de fait se manifester, s'extérioriser, s'épanouir, rayonner, selon trois niveaux. Il y a en moi trois degrés de vie. Ceci, je peux le saisir directement à partir de mon induction. Trois degrés de vie. Ces trois degrés de vie, c'est l'âme liée au corps, substantiellement liée au corps. J'appellerais ça ma vie végétative. L'âme est substantiellement liée au corps. Je peux encore préciser que mon âme est aussi liée à la connaissance sensible. La connaissance sensible, ce n'est plus ma vie végétative. C'est une vraie connaissance où je suis capable d'assimiler une forme sensible qui reste lié à la matière, mais que je saisis d'une manière tout à fait particulière. l'assimile d'une manière toute spéciale, que je ne précise pas maintenant, mais d'une manière toute spéciale, la connaissance sensible. Autre chose est de regarder une rose, autre chose la manger. Chacun d'entre nous, nous comprenons très bien la différence. Quand on commence à manger une rose, il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que la connaissance ne nous suffit plus. On veut toujours tout ce qu'on voit le manger. Il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas voir quelque chose sans vouloir le manger, sans vouloir le goûter. La connaissance sensible me met au-delà de l'assimilation végétative. Mais il y a une parenté entre les deux. Puis troisième niveau, j'ai des connaissances intellectuelles. J'ai un amour spirituel. Trois niveaux. Et ces trois niveaux se prennent, vous voyez, des opérations qui proviennent de moi, donc c'est pour ça qu'ils sont présents dans l'induction, des opérations qui sont plus ou moins liées à la matière. La vie, elle apparaît d'abord, pour moi, dans une vie végétative, entièrement liée à la matière, substantiellement liée à la matière. Une vie végétative d'assimilation d'aliments, de sommeil. C'est très végétatif le sommeil. C'est pour ça que c'est toujours assez effrayant quand on ne peut plus dormir. Parce que normalement, on a quand même une domination sur le végétatif. La connaissance est déjà beaucoup plus libre par rapport à la matière. Quand je connais quelque chose, je le possède au-dedans de moi-même sans le détruire. Vous voyez, c'est la vie végétative qui vous donne de bonnes dents pour déchirer. Parce que l'assimilation végétative, on ne peut pas être à deux sur le même morceau. Non, ça ne va pas. Donc il faut nécessairement laisser passer l'un devant. Quand on a faim, c'est très difficile. On se jette sur le plus gros morceau. Même des gens vertueux. Je me souviens, c'était au retour de la guerre. On attendait avec l'abbé Caffarel le veuf idéal. Il y avait un veuf idéal comme ça qui était pris. Et l'abbé Caffarel nous parlait tout le temps de ce veuf nerveusement vertueux. Évidemment, il ne peut être vertueux qu'à partir du veuvage, on comprend. Merveilleusement vertueux, une vertu consommée. Alors on l'attendait tous, on ne le connaissait pas, il n'y avait que l'abbé Caffarel qui le connaissait. Alors on le reçoit, puis alors il commence à nous parler. Il dit, ah oui, j'ai compris en captivité que je n'étais pas vertueux. On ne lui avait pas dit, hein. C'est lui qui a dit ça, que je n'étais pas vertueux. Alors on a tous regardé l'abbé Caffarel à ce moment-là. Notre veuf n'est pas vertueux. Il a dit lui-même. Et donnait comme exemple que quand on passait le pain le matin pour toute la journée, c'était pas grand-chose, il regardait le plus gros morceau. Il le prenait. Et chaque fois qu'il prenait ça, c'était plus fort que lui. Après, il disait, mais c'est terrible. Je prends le morceau de mon voisin. Il restait vertueux à l'intérieur de son instinct de vivant. Parce que c'était tellement peu de choses. C'est beau, ça. Pour montrer la vertu et la vie végétative. C'est fort, la vie végétative. Quand vous ne mangez plus, la vertu, vous savez, c'est du vernis. Substantielle, c'est la vie végétative. Notre seule vie substantielle, c'est la vie végétative. C'est pour ça qu'on mord à telle dent le beefsteak. Et des carnivores, la vie végétative. La vie végétative est au niveau substantiel. C'est enraciné en nous. Puis il y a la vie sensible, la connaissance sensible, qui est une vie intermédiaire. Puis la vie spirituelle. La vie sensible, restée, la vie de la connaissance sensible, reste liée au sensible, à la matière. Mais le vivant de vie et de connaissance sensible respecte parfaitement l'autre. Quand je connais quelqu'un, je ne le détruis pas. De connaissance sensible. Nous pouvons tous voir la même rose en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger le beefsteak en même temps. À 10, impossible. On est seul à manger de vie végétative. Je ne peux pas manger pour un autre. Impossible. Tandis que je peux voir pour quelqu'un d'autre. Oui, je peux lui raconter. Surtout maintenant, on peut prendre des photographies et multiplier les choses. Vous ne pouvez pas prendre la photographie du beefsteak et dire, hein, voilà. Impossible. Et ça serait commode hein, pour le cuisinier. Il ferait un seul plat, puis la photographie du plat, et puis il distribuerait les photographies à toutes les tables. Évidemment, le plat unique serait la table principale. Les autres, ils regarderaient. On se nourrirait intentionnellement. Vous voyez l'intentionnel. Quand vous avez très faim, vous aviez très faim, plus maintenant, quand vous aviez très faim et que vous passiez le matin tôt en allant à la messe ou en allant voir quelqu'un, vous n'avez pas pris petit déjeuner, vous passez auprès d'une boulangerie. Hein? Boulangerie qui est en train de cuire le pain, quoi. Vous vous arrêtez. Si vous avez le temps, vous arrêtez. Puis vous humez ça. Vous prenez le petit pain intentionnellement. Vous voyez, vous comprenez ce que c'est que l'intentionnalité. Je dis ça pour ça. C'est très important ça. Comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. Et puis vous dites, j'ai pris mon petit déjeuner intentionnellement. Vous pouvez faire ça un jour. Deux jours. Déjà plus difficile. Trois jours, on le prend intentionnellement. Vous voyez, la connaissance fait vivre au niveau intentionnel. La connaissance sensible. Tandis que la vie végétative, le réalisme substantiel. Et c'est l'intentionnalité qui me fait comprendre comment je peux idéaliser. Vous idéalisez votre petit déjeuner par l'intentionnalité. Parce que j'ai senti cette odeur magnifique du petit pain frais. C'est vrai, c'est... le matin quand vous êtes à jeun, et quand vous sentez ça, c'est extraordinaire. J'ai des souvenirs là-dessus étonnants. En panne de voiture, je me souviens, en pleine brousse. Bah, c'était, je crois, 2h du matin. Bah, il fallait attendre. Il y avait une boulangerie. Pas très loin de là. C'était tout de suite, à 4h du matin, une boulangerie. Je crois que c'est 4h du matin. À matine, 4h du matin, on commence à voir une clarté, on regarde, et puis on voit que c'est une boulangerie. Au bout de quelques instants, on sent. Alors on a envie de taper, hein. Passer de l'intentionnalité à la réalité. Mais c'est bon de sentir ça. Parce qu'à partir de là, on voit ce que c'est que l'intentionnalité. Et on voit comment on peut idéaliser. La connaissance commence par l'intentionnalité. On mange des petits pains intentionnellement, en humant l'odeur. Et on voit la différence entre ce petit déjeuner intentionnel, très élégant, d'une élégance magnifique, puis le petit déjeuner réel. Alors là, vous voyez, deux degrés de vie. Le degré de vie substantiel, la vie végétative. Et la vie végétative, c'est petit déjeuner réel. Puis la connaissance sensible, où j'entre dans l'intentionnalité. Puis la connaissance intellectuelle, où c'est encore l'intentionnalité. Une intentionnalité supérieure, une intentionnalité intellectuelle, qui peut avoir un mode universel. Et vous pouvez, en vous levant, penser fortement au petit déjeuner que vous avez eu la veille. En le pensant très fort, vous prenez votre petit déjeuner intentionnellement, intellectuellement. C'est moins agréable que petit déjeuner intentionnellement, mais quand même sensiblement. Vous voyez la très grande différence. Trois petits déjeuners. L'un, dans la conscience, je médite sur le petit déjeuner. Je ne peux pas le manger autrement. Je passe devant le boulanger. Alors, je vis intentionnellement et sensiblement. Puis, je le prends réellement. 3 degrés de vie. Il n'y en a pas d'autres. Cherchez bien. 3 degrés de vie. À l'intérieur de mon induction, en réfléchissant, je vois que mon âme a deux extrêmes. Elle informe le corps. Et elle est spirituelle. Et que cette âme qui informe le corps et qui est capable de vivre au-delà du corps, de s'épanouir au-delà du corps. Cette âme a 3 degrés de vie. Alors, je pose une petite colle, il faut toujours pour que vous compreniez mieux. Donc, je mets l'âme, principe de vie, cause de vie. Donc, en tant que principe, elle est indivisible. Mon âme est indivisible. On ne peut pas la diviser. Cette âme est forme du corps. Et cette âme est source de vie spirituelle. Donc, au-delà du corps. Elle est métacorps, hein, au-dessus du corps. Il y a ça dans l'âme. Elle a quelque chose qui est au-dessus. Donc, ça, c'est très net. Hein. Je peux réfléchir là-dessus. Puis, 3 degrés de vie. Vie végétative. Vie sensible. Vie spirituelle. Alors pourquoi 3 degrés de vie et ces deux extrêmes? Forme du corps et au-delà du corps, capable de dépasser le corps. Donc elle transcende le corps. Mon âme transcende le corps et mon âme est immanente au corps. Il y a les deux aspects. Transcende et immanente. Alors, les opérations de vie, les 3 degrés de vie, ça pas parce qu'Aristote l'a dit que je le répète, hein. C'est pas parce que saint Thomas, mais c'est l'analyse que je fais à l'intérieur même de mon induction. Je crois qu'il y a 3 degrés. Ces 3 degrés de vie se prennent des opérations. Des opérations vitales en fonction du corps. Donc relativement au corps. Relativement à la matière. Un lien substantiel avec la matière, toute la vie végétative. Au-delà de la matière, donc un lien substantiel avec la matière, au-delà de la matière, demeurant sensible, donc un au-delà relatif. Et un au-delà absolu. Vous avez là les 3 degrés de vie. À partir de l'induction. Dans l'induction. Et vous avez donc bien ces 3 moments. L'induction touche une source. L'induction réfléchit sur cette source qui est forme du corps. Mon âme est forme du corps. Mais tout en étant forme du corps, l'âme est capable d'aller plus loin. Et si je veux préciser, je dis que l'âme est source de 3 degrés de vie.